Entretien avec notre évêque.
Bonjour Monseigneur.
Bonjour Monsieur Blois, quelle belle et heureuse surprise que de me faire interviewer par vos soins, votre compétence de journaliste. Voilà. Yes. Je salue bien sûr nos auditeurs à l'antenne comme j'aime bien le faire chaque fois.
J'espère qu'ils ne m'en voudront pas car c'est une première pour moi d'interroger notre évêque. Mais comme toutes les semaines, c'est avec beaucoup de joie que nous vous recevons sur notre antenne. En
Merci.
Plus, cette joie a une saveur particulière cette semaine, car nous allons évoquer un événement exceptionnel pour l'Église. Je veux parler de la canonisation de trois Français, entre autres, notamment le père Charles de Foucault, mais aussi sœur Marie Rivier et le père César de Bus. Tout ceci ce dimanche à Rome. J'imagine que c'est un moment très attendu depuis longtemps par les croyants.
Oui, bien sûr, d'autant plus que nous savons que la cause de canonisation de Charles de Foucault n'a pas été simple à gérer pour le Saint-Siège et qu'il a fallu reporter à plusieurs reprises l'événement. Donc voilà, c'est fait. J'aime à imaginer qu'au ciel, une religieuse fondatrice des Petites Sœurs de Jésus qui s'appelait Petite Sœur Madeleine de Jésus, doit beaucoup se réjouir parce que Petite Sœur Madeleine est elle-même vénérable, elle est en voie de béatification, mais comme c'est une fille, une disciple un peu de Charles de Foucault, elle a voulu suivre son chemin, elle n'aurait pas supporté de passer la première. Donc je pense qu'elle attendait que Charles de Foucault soit canonisé pour recevoir elle-même les honneurs de l'Église, et encore que ce n'est pas du tout le genre à les rechercher. Enfin voilà, donc peut-être que ce serait bien que...
Que l'on rappelle un petit peu qui était Charles de Foucault.
Charles de Foucault, on va pas faire trop ça en détail, parce que je pense que nos auditeurs connaissent bien la vie de cet homme absolument atypique, merveilleux en même temps, qui est né en 1858 d'une famille, on peut dire, de la haute aristocratie. Les de Foucault avaient des aïeux du côté de Louis XIV. Enfin bon, c'était quand même d'une grande famille et puis très riche. Il perd ses parents malheureusement à 6 ans. Ça, c'est un choc dont il aura du mal à se remettre. C'est son grand-père maternel, le colonel Morlaix, qui va l'élever. Et il va nouer avec son grand-père d'admiration, de vénération. Malheureusement, son grand-père décédera aussi quand il était adolescent. Et ça va être très difficile pour lui de s'en remettre. Alors, il se retrouve blessé dans son affectivité. Très vite, il se retrouve sans repère, perdu, quoi, dans un monde de plus en plus incroyant. Il s'enfonce dans le doute, le scepticisme. Il commence sa scolarité à Strasbourg, où il reçoit une éducation religieuse. Ça, c'est un fait. La famille s'installe à Nancy, après l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne. Et donc, une période de désarroi va commencer à partir de l'âge de 18 ans, 20 ans. Il sombre dans une profonde tristesse. Il dilapide sa fortune. Il mène une vie d'extravagance, d'excès en tout genre. Il est attiré par l'armée. Donc, il va intégrer l'armée pour y faire une carrière aussi à pointillé, c'est-à-dire qu'en fait, il est surtout repéré pour son indiscipline, il est exclu, il va réintégrer. Alors, il est soutenu quand même, il faut le dire, par sa cousine Marie de Bondy, qui aura pour lui beaucoup de tact, de délicatesse, parce que quand même, il s'était tellement exclu de la famille, il était considéré un peu comme la honte de la famille. Et sa cousine va toujours avoir beaucoup de, quand même, de garder les liens, etc. Et puis comme c'est une femme de foi, elle va maintenir en lui une petite flamme quand même, malgré tout. C'est bon. Et puis il va y avoir cet événement de Noël 1886, où on sait, Charles entre dans l'église Saint-Augustin de Paris et rencontre l'abbé Huvelin, qui était un ami de la famille d'ailleurs. Et il demande à être instruit des choses de la foi, en disant qu'il est, il est inculte, il ne connaît rien, et on sait là ce qui va se passer. L'abbé Huvelin lui dit « Mettez-vous à genoux et confessez-vous ». Il dit « Mais j'ai pas la foi, mettez-vous à genoux et confessez-vous ». Et voilà que tout le fil de sa vie bien chahuté se déroule dans cet aveu qui va être en fait libérateur, et c'est le début de sa conversion. Il raconte d'ailleurs « Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais pas faire autrement que de ne vivre que pour lui ». Enfin, c'est très beau. Il part en Terre Sainte pour faire un pèlerinage. Il est marqué, il est frappé par, bien sûr, la figure de Jésus de Nazareth, Jésus charpentier, Jésus tout simple dans sa présence au milieu des hommes. Et il entre à la trappe en Syrie d'Abkès. Il va rester 7 ans. Il va ensuite choisir de revenir à Nazareth pour se mettre au service des Clarisses. Vivre tout pauvre dans une petite habitation minuscule. Et puis, finalement, il rentre à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, dans le diocèse de Viviers, parce qu'il pense que c'est là qu'est son appel. Il a 43 ans lorsqu'il est ordonné prêtre par l'évêque de Viviers, donc prêtre diocésain. Et puis là, l'appel du désert le rattrape. Alors, il part pour Beni Abbès, tout près de la frontière marocaine. Il veut être bon comme Jésus, il aspire à vivre la vocation de frère universel, ouvert et disponible à tous, hein, autant les chrétiens, les musulmans que les juifs, etc. Il va faire des incursions scientifiques dans le Haut-Gard avec le général Lapérine. Il va être remarqué d'ailleurs par ses travaux, autant géographiques que linguistiques, puisqu'il va être l'auteur d'un dictionnaire, le premier dictionnaire Touareg français. Donc, il va se faire remarquer sur le plan scientifique par ces travaux-là. Dictionnaire, on dit français tamashek, voilà. Et puis, la Première Guerre mondiale éclate en 1914. Il avait bâti un fortin à Tamanrasset pour abriter la population quand même menacée. Et puis, il tombe dans un guet-apens, une confrérie musulmane, des espèces d'anciens djihadistes, hein, de l'époque, lui tendent un piège, l'attirent en dehors du fortin. Et puis, ce qui arrive, ben, il y a une espèce d'affolement. C'est un jeune qui va tirer un coup de fusil, qui va l'abattre en 1916, 1er décembre. Alors, il est pas mort martyr, puisque, en fait, c'est plutôt par panique que ce jeune a tiré. Mais enfin, n'empêche que c'était clairement un guet-apens. Voilà pour retracer très vite, hein, ce que beaucoup de nos auditeurs savent déjà. Mais c'est quand même c'est beau de voir la conversion d'un jeune qui était un peu perdu, un chercheur d'absolu, mais qui s'était égaré, hein, et puis qui a été rattrapé par la grâce d'une manière magnifique.
Et on peut dire que finalement, il a trouvé dans la mission à l'étranger le terrain propice pour son besoin de servir l'Église et pour pouvoir... on est loin de l'image de la mission version colonisatrice.
Oui, bah vous avez dit les choses en raccourci, mais très, très justement. C'est vrai que Charles de Foucault, par son itinéraire, nous aide peut-être à bouscule enfin, nos idées un peu préconçues de la mission. Lui-même était persuadé que, en fait, Dieu avait choisi les nations occidentales, en fait, pour promouvoir ses projets, ses desseins jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça le paradigme un peu colonial. Le modèle missionnaire qui était le sien, ben, bien sûr, il se référait au commandement de Jésus, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », etc. Mais, en fait, son parcours va nous montrer que toute cette façon de penser la mission s'écroule. Il vit un échec missionnaire au sens où c'est le fait de côtoyer les musulmans et de découvrir leur culture qui va l'amener au Christ. Et en fait, donc, d'abord, l'hospitalité, c'est le premier témoignage que lui donnent les musulmans. L'hospitalité, c'est-à-dire la charité fraternelle, il va la découvrir chez eux. À un moment où sa vie est en danger parce que c'est la famine là où il vit, il dépérit complètement, il a perdu des dizaines de kilos. Il est atteint du scorbut, il est pratiquement au bord de mourir. Et ce sont des femmes touaregs qui vont en fait le sauver, c'est-à-dire qu'elles vont lui donner du lait de chèvre, alors que même se privant de ce lait, même pour les enfants, pour lui sauver la vie, et elles vont l'arracher à la mort. Et donc, il va en être bien sûr très marqué, parce que lui qui les avait souvent jugées, ces femmes un peu aux mœurs légères, elles sont à ses côtés pour le ramener à la vie. Et ça aussi, ça chamboule toute sa façon de penser la mission. Lui qui voulait donner, parce que c'était un homme d'action, vous savez, sa devise de militaire, c'est « jamais en arrière ». Quand on a ça comme devise, ça veut dire qu'on est involontaire. Ben oui, mais oui, il a fallu qu'il apprenne à s'abandonner. Il va changer complètement de façon de voir sa mission. Et c'est la fraternité, bien sûr, qui va être première pour lui dans l'annonce de l'Évangile. Il a découvert en fait que l'annonce explicite de l'Évangile, bien sûr qu'elle a une place dans l'évangélisation, mais elle n'est jamais première dans le ministère de l'Église. Ce qui est premier, c'est le dialogue, c'est la rencontre, c'est la fraternité. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce que peut nous apporter de beau ce témoignage de frère Charles. Et puis, bien sûr, son lien à l'Eucharistie, puisqu'il était prêtre. Ce lien, il n'est pas simplement cultuel, mais il est profondément missionnaire. L'Eucharistie, pour lui, c'était l'acte missionnaire par excellence. C'est-à-dire que, bien sûr, il ne célébrait pas la messe avec des foules, puisqu'il la célébrait pratiquement seul tous les jours. Mais l'Eucharistie, pour lui, c'était la présence christique universelle. Le Christ est présent, il emplit l'univers par son amour. L'Eucharistie, c'est la manière pour le Christ de rayonner son amour sur l'humanité tout entière, et c'est comme ça qu'il a vécu ce lien à l'Eucharistie d'une façon singulière quoi, et magnifique.
Eh bien, Monseigneur, merci pour ce message finalement qui nous guide vers une journée particulièrement rayonnante, on l'espère, dimanche.
Oui, alors moi, nous on a eu la joie d'accueillir Monseigneur Boulanger, Jean-Claude Boulanger, évêque émérite de Bayeux-Lisieux, qui nous a fait une magnifique conférence mercredi soir sur Charles de Foucault. Il a publié 2 livres. Et en quittant l'évêché, où il avait passé la nuit, il m'a dit qu'il prierait très fort à Rome pour les Mayennais, demandant à Saint Charles de Foucault d'attirer beaucoup de grâce sur les catholiques de la Mayenne. Voilà.
Bien, je vous remercie, Monseigneur.
Merci, Monsieur Blois. C'est moi qui vous dis merci. Très heureux d'avoir été interviewé par vos soins.
Voilà. Merci encore. Et on donne rendez-vous à tous les auditeurs pour la retransmission directe de ces canonisations sur notre antenne dimanche à partir de 10h. Et peut-être entendront-ils la prière de Monseigneur Boulanger.
Très bien. Au revoir. À bientôt.
Au revoir.